Jean chapitre 10, à partir du verset 11, nous lisons. Jean chapitre 10, voilà donc je lis à partir du verset 11. C'est moi qui suis le bon berger. Le bon berger se défait de sa vie pour ses brebis. Quand il voit venir le loup, l'employé, celui qui n'est pas berger, et pour qui il ne s'agit pas de ses propres brebis, s'enfuit en abandonnant les brebis. Et le loup s'en empare, il les disperse. C'est un employé, il n'a pas le souci des brebis. C'est moi qui suis le bon berger, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et comme moi je connais le Père, et je me défais de ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Ceux-là aussi, il faut que je les amène. Ils entendront ma voix et ils deviendront un seul troupeau, un seul berger. Si le Père m'aime, c'est parce que moi, je me défais de ma vie pour la reprendre. Personne ne l'enlève, mais c'est moi qui m'en défais de moi-même. J'ai le pouvoir de m'en défaire et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Il y eut encore division parmi les Juifs à cause de ces paroles. Beaucoup d'entre eux disaient « Il a un démon, il est fou ». Pourquoi l'écoutez-vous ? D'autres disaient, ces paroles ne sont pas celles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ? Voilà, nous prions. Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier ce matin pour ces paroles qui viennent d'être lues. Nous te remercions parce que tu veux nous parler encore dans la suite de ce culte et nous nous réjouissons de tes paroles, nous nous réjouissons de ce que tu veux nous révéler de toi, pour nous, pour notre communauté. Oui, nous voulons te le prier en ton nom. Amen. Amen. Alors voilà, vivre et partager l'amour de Jésus-Christ sur la côte, telle est notre vision. Comme nous l'avons médité dans notre week-end d'église, durant notre week-end d'église, il y a quelques semaines de cela, nous sommes invités à vivre la vie de Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Mais quel défi, n'est-ce pas, de vivre la vie de Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Surtout lorsque je constate tout ce qui se passe autour de nous, dans nos sociétés, qu'elles soient proches, qu'elles soient loin de nous, de ces pays qui sont loin de nous et qui connaissent des conflits, des divisions. Il est parfois difficile de nous dire, mais comment est-il possible de vivre la vie de Christ dans un tel contexte ? Aujourd'hui, il y a tellement de contrées qui sont dirigées par des hommes ou des femmes autoritaires, par des personnes qui oppressent leur peuple. Et c'est vrai que ces personnes-là sont de mauvais exemples, n'est-ce pas ? Pour leur pays, pour leurs concitoyens. Mais en tant que croyants, en tant que chrétiens, bien nous sommes invités à être des exemples du Christ. Je pense au témoignage d'un homme, c'est un prédicateur égyptien, qui a participé il y a de nombreuses années à un congrès à Lausanne. Voilà, c'était en 1974 justement. De là est né le mouvement de Lausanne, qui est un mouvement qui a pour objectif de rassembler des leaders du monde entier afin qu'ils puissent être encouragés dans un ministère d'évangélisation. Et donc cet homme a fait partie d'un groupe de prière tout au long de la semaine. Et donc il était entouré de certaines personnes d'autres contrées, bien sûr. Et comme vous le savez peut-être, mais souvent ces responsables de mission, bien d'église, ont tendance à un peu partager leurs exploits. Durant les temps de prière, ils disent, le Seigneur me bénit parce que je fais telle et telle et telle chose dans tel et tel domaine de ministère. Et c'est vrai qu'il a été très, très encouragé d'entendre tous ces témoignages. Et dans ce groupe, il y avait aussi un homme, un pasteur africain, qui semblait être très spirituel, qui ne partageait pas beaucoup sur son ministère, mais qui au moins priait pour chacune des personnes présentes. Et il disait tout simplement qu'il était un pasteur actif dans les régions rurales de son pays. Enfin voilà, donc la semaine est vite passée, les choses ont été extraordinaires pour lui, très encouragé à retourner dans son pays, en Égypte. Et puis lorsqu'il a repris l'avion et qu'il a repris la direction en fait, du Caire, il a trouvé dans la poche de son pantalon un certain nombre de cartes de visite. Et donc parmi celles-ci, il y avait celle du pasteur africain. Et lorsqu'il lit attentivement le nom de ce pasteur et ce qu'il faisait, eh bien, il était écrit « Pasteur Festo, archevêque de l'église anglicane du Kenya ». Cet homme qui n'a pas dit grand-chose dans le groupe de prière, mais qui s'est contenté juste de prier pour les uns et pour les autres, alors que les autres avaient presque tendance à s'extasier devant tout ce qu'ils avaient accompli comme ministère pour le Seigneur. Là, enfin, cet homme était la tête de l'église anglicane, la tête de la plus grande dénomination dans son pays. Et pourtant, il était tellement, tellement simple, tellement humble. Et ce prédicateur égyptien a dit, mais moi j'ai envie d'être comme lui. J'ai envie d'être comme lui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui dans nos communautés, et pas seulement dans nos communautés, mais dans toutes nos sphères d'influence, eh bien, nous sommes appelés à ne pas nous contenter en fait, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais nous sommes invités à vraiment revêtir l'humilité du Christ et d'être un exemple pour les uns et pour les autres. Notre identité ne devrait pas se trouver dans notre position, dans notre titre, dans le titre que nous avons, mais notre identité devrait se trouver d'abord en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Et c'est le souci qu'a Jésus finalement. Lorsqu'il s'adresse à toutes ces foules, et parmi ces foules, bien sûr, il y a aussi des responsables religieux, et lorsqu'il s'adresse à ces foules, eh bien, ouais, comme nous l'avons dit il y a quelques semaines, Jésus dit qu'il est la porte. Jésus dit qu'il est la porte. Oui, c'est vrai, il faut que tout berger fidèle puisse passer par la porte, puisse passer par le Christ seul, afin qu'il puisse pleinement entrer dans sa vocation, dans leur vocation. Il faut aussi que toute brebis puisse aussi passer par cette porte afin qu'elle puisse obtenir avec le salut, la sécurité, l'assurance de faire partie de la famille de Dieu. Oui, Jésus est la porte. C'est lui qui rend capable à tous ces bergers de l'époque, responsables d'un troupeau ou en fait d'un autre, de veiller à ce qu'ils puissent accomplir leurs responsabilités. Vous vous souvenez certainement en fait, de cette image que Charles Daniel vous a partagée, n'est-ce pas? Où bien sûr, en fait, à l'époque, il fallait s'imaginer ce grand enclos qui était emmuré et vers lequel eh bien, toutes les brebis devaient aller le soir. Et il y avait une seule porte, et la porte était gardée par une seule personne, et cette personne ne laissait passer que les bergers qu'il connaissait. Et lorsque les bergers entraient dans l'enclos, eh bien, ils appelaient leurs brebis et les brebis reconnaissaient la voix de leurs bergers. Et c'est ainsi qu'ils partaient avec leurs bergers dans les bons pâturages. Oui, Jésus est la porte, mais ici, en fait, pour notre texte de ce matin, eh bien, Jésus nous dit, le bon berger, je suis. Le bon berger, je suis, dit Jésus. Et donc, en fait, il n'y a pas de contradiction entre ce que Jésus dit d'abord, « Je suis la porte », et puis ici, lorsqu'il dit « Le bon berger, je suis ». En fait, d'un côté, Jésus est la porte par laquelle tous doivent passer afin qu'ils puissent entrer dans le royaume de Dieu. Mais une fois dans ce royaume de Dieu, eh bien, Jésus est le bon berger, c'est-à-dire qu'il est le conducteur suprême qui donc veille en fait sur tout ce royaume. Jésus est le berger des bergers. Jésus est le berger des brebis. Et donc là, il dit, le bon berger, je suis. je suis. Lorsqu'il révèle encore une fois son identité divine au travers de ses paroles, le bon berger, je suis. Et souvenez-vous de la responsabilité du berger de l'époque, n'est-ce pas ? Il prenait soin de son troupeau, il veillait au bien-être de son troupeau, il le protégeait, il le conduisait vers les bons pâturages. Il restait la journée, parfois la nuit, avec toutes les brebis. Il les défendait contre les fauves, contre les pillards. Et il allait rechercher certaines de ses brebis qui s'étaient perdues. Il allait soigner certaines de ses brebis qui avaient été blessées. Ouais, il n'est pas seulement un bon berger, mais il est le bon berger. Le bon berger, l'incontournable, le berger des bergers, celui vers lequel nous pouvons vraiment aller et donc appuyer et puis s'appuyer pour toute notre vie. Le Seigneur est notre berger. Il est le bon berger. Et il s'inspire bien sûr des paroles de l'Ancien Testament, que nous connaissons certainement, comme par exemple le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ou il y a cette parole de Michée, où l'Éternel dit ceci, il dit donc à son peuple, « Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob, je rassemblerai les restes d'Israël, je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. Il y aura un grand bruit d'hommes. Celui qui fera la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, ils franchiront la porte et en sortiront. Le roi marchera devant eux et l'Éternel sera leur tête. » Ou lorsque nous parlons du bon berger ou du berger d'Israël, ce berger des bergers, eh bien, souvenons-nous des paroles d'Ézéchiel. C'est dans Ézéchiel 34. Où il dit ceci à son peuple, un peuple qui est en exil. Il le dit, je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui le ferai reposer, dit le Seigneur, l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient perdues, je ramènerai celles qui étaient égarées, je panserai celles qui étaient blessées, je fortifierai celles qui sont malades, mais je détruirai celles qui sont grasses et qui sont vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Le bon berger, je suis. Il m'arrive parfois de rencontrer des personnes qui me disent, mais moi, je ne veux pas de berger dans ma vie. Moi, je ne veux pas de personnes qui me disent comment je dois me comporter, comment je dois conduire ma vie. Et parfois, j'ai juste envie de lui dire ou de leur dire, eh bien, bon courage. Si tu ne veux pas de berger, si tu ne veux pas le bon berger dans ta vie, comme on l'a dit ce matin dans le cadre du temps de louange, eh bien, toute brebis a besoin d'un berger parce que sans quoi elle se perd. Donc, si quelqu'un dit aujourd'hui, je ne veux pas du bon berger dans ma vie, je ne peux que lui dire, eh bien, bon courage lorsque tu feras face à ces bêtes féroces que tu traverseras sur ta route. Le bon berger est là, n'est-ce pas ? Ce qu'il nous veut, c'est en fait tout notre bien. Ce qu'il veut, c'est nous apporter toute la sécurité dont nous avons absolument besoin pour pleinement marcher dans ses voies, pour pleinement bénéficier de tous ces cadeaux qu'il veut nous offrir au jour le jour, et toutes ces ressources qu'il veut nous donner afin que nous puissions être ses témoins. Ouais, le bon berger, je suis. Et comme le dit la suite de notre texte de ce matin, eh bien, le bon berger est celui qui donne sa vie, et celui qui donne sa vie pour ses brebis. Et là, lorsque vous continuez de lire ce texte, eh bien, nous constatons que Jésus fait le contraste entre le mercenaire, comme le dit dans certaines traductions, et puis le bon berger. En fait, le mercenaire est celui que, lorsqu'il voit que la brebis est en danger ou que la brebis s'est perdue, eh bien, tant pis, moi je fais mon job et rien de plus. Alors que le bon berger, lui, est prêt à aller jusqu'au bout pour aller rechercher cette brebis perdue, cette brebis galeuse, et pour à nouveau l'intégrer dans cet enclos, l'intégrer dans son royaume, l'intégrer dans sa famille. Jésus dit, ouais, je suis le bon berger et je donne ma vie pour mes brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Moi, je suis le bon berger. Si Jésus s'exprime ainsi, c'est parce qu'il constate que toutes ces personnes, tous ces responsables religieux qui sont là, n'assument pas leur responsabilité pour le bien du peuple d'Israël. C'est comme s'ils voyaient seulement la laine qui pourrait rapporter pour le mercenaire, la laine ou la viande qui pourrait rapporter beaucoup pour leur bien-être, mais ils ne voient pas la valeur intrinsèque, la valeur du cœur de chacune de ces brebis qui font partie du peuple de Dieu. Et parfois, j'ai l'impression que dans nos églises, il y a de ces mercenaires-là, finalement. Il y a de ces personnes qui vont plutôt utiliser les personnes qui font partie de leur communauté plutôt que de les entourer, de les fortifier, de les édifier, de les encourager et de leur permettre d'entrer dans le service que Dieu veut leur confier. Je me souviens d'une personne dans une autre communauté qui me disait un jour, « Ouais, mais ce pasteur, bah, il a tellement de charisme, c'est vrai. Et lorsque je lui offre ça, il me prend ça. Et lorsque je lui offre ça, il me prend ça. » Et c'est vrai que parfois, et ce n'est pas seulement le cas des pasteurs, mais quelle que soit notre sphère d'influence, cela peut être notre sphère familiale, cela peut être notre sphère dans le cadre du travail, dans le cadre du voisinage ou dans d'autres circonstances encore, eh bien, nous avons parfois la tentation de vouloir contracter certaines relations dans le but d'en bénéficier quelque chose. Et non pas dans le but tout simplement d'aimer la personne qui est avec nous et qui veut être en lien avec nous. Et c'est pour cela que cette parole de Pierre, en fait dans sa première lettre, est importante. 1 Pierre, au chapitre 5. Alors vous allez me dire ce matin, oui, mais voilà, mais cette parole s'adresse surtout à des responsables d'église, mais nous sommes tous des responsables de ces nombreuses sphères où nous sommes actifs finalement, et tous d'une manière ou d'une autre, nous sommes des responsables, nous sommes des leaders, peut-être pas tous des leaders d'église, même si beaucoup d'entre nous avons des responsabilités au sein même de la communauté, et sommes appelés dans ce sens-là à être des exemples du Christ, des hommes et des femmes qui reflètent le bon berger. Pierre dit ceci, 1 Pierre chapitre 5, faites paître le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux, sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et puis il y a cette autre parole. C'est dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2. C'est l'apôtre Paul qui parle et qui dit « Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres du Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Faites paître le troupeau de Dieu sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux, mais en étant des modèles. Je pense à ce témoignage de quelqu'un qui travaille pour les GBU il y a quelques années, pour les groupes bibliques universitaires, en fait au Québec. Et c'était l'époque du réveil au Québec. C'était les années 80. Beaucoup, beaucoup de personnes sont venues à Jésus-Christ durant cette période-là. Beaucoup, beaucoup d'églises ont été créées à cette période-là. Et bien sûr, sur les campus universitaires, il y a eu également beaucoup de gens qui se sont tournés vers Jésus. Et la personne qui travaillait pour les GBU, eh bien, avait chaque semaine un groupe d'études bibliques, voilà, qui se rassemblait, avec des personnes qui n'étaient pas croyantes. Et donc chaque semaine, eh bien, ces jeunes avaient soif de la parole de Dieu, donc ils la lisaient avec cet homme, et il y avait beaucoup d'engouement. Plusieurs personnes ont donné leur vie à Jésus durant toute cette période-là. Et si ces personnes en fait se rassemblaient, c'est parce qu'il y avait une étudiante qui avait donné sa vie à Dieu et qui avait ce don de rassembler tous ses amis non-croyants à cette rencontre de la semaine. Et un jour, le responsable en fait, des GBU va vers elle et lui dit « Alors, on se voit mardi prochain pour l'étude ?» Et puis elle lui dit « Ah non, 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 en fait, il n'y aura pas d'étude mardi. » Et puis elle dit « Mais pourquoi ?» Et puis il dit « Parce que je ne crois plus. Parce que je n'ai plus la foi. » Et c'est vrai que ce responsable des GBU était complètement dévasté par ce qui venait de se passer, mais il a commencé à réaliser, il a commencé à prendre du recul par rapport à ce qui venait de se passer, et puis il s'est dit mais je me suis beaucoup plus intéressé au talent de cette jeune étudiante plutôt qu'à sa santé spirituelle. Et c'est peut-être cela notre défi aujourd'hui, n'est-ce pas ? C'est que nous avons cette tendance à trop vouloir nous intéresser aux talents des uns des autres et de ne pas suffisamment nous intéresser à leur chemin de foi. Oui, prenez soin. Prenons soin, en fait, les uns des autres. Ne faisons pas ça parce qu'il faut bien le faire. C'est un devoir. C'est un peu comme ça, un peu qu'on se comporte, n'est-ce pas ? On a grandi dans une famille chrétienne, on a grandi au sein d'une communauté, et puis on se dit, mais ça fait partie de la vie de faire partie d'une communauté. Eh bien, on va essayer d'assumer une responsabilité au sein de la communauté, et on le fera plus par devoir que par passion. Et le risque de ces responsables d'église, c'est de se dire, moi, je veux le succès dans mon église, donc je vais tout faire pour exploiter au mieux toutes les ressources qui sont là. Mais son but, c'est le succès et non pas spécialement la croissance qualitative de toute la communauté. Oui, lorsque nous prenons conscience que Jésus a donné sa vie pour nous, si nous choisissons d'entrer justement dans cette démarche de foi et dans cette démarche de prendre part à la mission de Dieu, eh bien, ne nous laissons pas avoir par cette tentation du succès, mais soyons encore et toujours, eh bien, focalisés sur cette envie de servir le Seigneur, non pas par devoir, mais par envie, et de voir ces hommes et ces femmes au sein de la communauté et au-delà des murs de la communauté à être en mesure de grandir dans leur vie de foi. Mais tout cela vient parce que nous réalisons à quel point Jésus a donné sa vie. Il a donné sa vie pour nous. Le bon berger est celui qui donne sa vie. Et puis, comme il le dit dans notre passage du jour, il est celui qui nous connaît, n'est-ce pas ? Voilà ce qu'il dit dans les versets 16. Dans le verset 14, c'est moi qui suis le bon berger, je connais mes brebis, mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et comme moi je connais le Père et je me défais de ma vie pour mes brebis. Non seulement il donne sa vie pour nous, mais il est celui qui nous connaît, qui nous connaît personnellement. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il nous connaît mieux que tous les membres de notre propre famille. Il nous connaît mieux que tous nos amis. Il nous connaît. Et c'est pour cette raison-là que nous sommes invités à marcher justement, en fait, dans la confiance. Il connaît nos luttes. Il connaît nos tristesses. Il connaît nos déceptions. Il connaît nos maladies. Il connaît tout ce que nous vivons. Et parce qu'il nous connaît, nous avons aussi cette assurance qu'il est ce Dieu qui va nous donner ce dont nous avons besoin pour poursuivre notre route avec lui. Et pour continuer à être les exemples du Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Le bon berger est celui qui donne sa vie. Il est celui qui nous connaît parfaitement. Et si ce matin... nous avons peut-être cette tendance à douter qu'ils nous connaissent. Nous avons tendance à douter de sa bienveillance dans nos vies. Eh bien, ce matin, sachons qu'il est ce Dieu qui nous connaît parfaitement et qui nous invite peut-être encore à nous ouvrir à lui pour le laisser intervenir et pour nous donner ce dont nous avons besoin pour poursuivre avec lui. Le bon berger, je suis. Je te donne ma vie. Je te connais. Et j'aime cette parole qui dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Face à toutes ces personnes qui veut le lapider, qui veut le tuer, eh bien lui, il est en train de dire là, c'est moi qui donne ma vie, et c'est moi qui la reprends. Personne ne peut m'en empêcher, personne. Ouais, il est ce Dieu souverain, il est ce bon berger, il est celui sur lequel on peut vraiment toujours, toujours compter. Et puis pour terminer, il est celui qui nous dit qu'il nous accueille. Il vous accueille. Il dit au verset 16, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Et là, je pense que Jésus est en train de prononcer en fait, des paroles qui sont prophétiques. En fait, des paroles où il est en train de dire, je ne suis pas seulement le berger d'Israël, mais je suis le berger des nations. Je vais inclure au sein de mon peuple bien un certain nombre en fait, de personnes qui ne sont pas issues de ce peuple d'Israël, mais que je désire sauver. Ouais, je les accueille. Comme nous aussi, n'est-ce pas, notre communauté, on s'est dit durant tellement d'années, eh bien, on a une bonne communauté de gens de la campagne, tous de racines helvétiques. Et puis aujourd'hui, nous sommes une communauté qui finalement reflète toute la famille de Dieu, reflète tout le royaume de Dieu. C'est une communauté internationale, c'est une communauté qui rassemble toutes les nations, finalement. Et c'est vrai que la question à nous poser ce matin, c'est quelles sont les personnes vers lesquelles le Seigneur désire que j'aille dans ces temps qui viennent? Ces personnes qui ont d'un côté, besoin d'être fortifié dans la foi, déjà, hein, mais en fait, d'un autre côté, quelles sont ces personnes qui sont d'ailleurs, peut-être pas le voisin qui est un bon Suisse, mais aussi les gens d'ailleurs. C'est vrai qu'on vit dans une région où il y a, en fait, des gens qui viennent du monde entier, finalement. Et c'est vrai qu'il est tout à fait normal qu'aujourd'hui, notre communauté puisse rassembler des gens du monde entier. Je pense que nous rassemblons aujourd'hui plus de 12 pays. 12 pays au sein de notre communauté, déjà. Oui, c'est un beau reflet, en fait, de la famille de Dieu. Oui, bon, je termine par ce témoignage. Lorsque j'étais pasteur au Jura bernois, et que je leur parlais de l'importance de pouvoir partager l'évangile auprès des uns et des autres, ils me disaient souvent, oui, mais David, moi, je commence par la famille et je termine par la famille. Donc, je vais annoncer l'évangile que aux personnes de la famille. Et si les personnes de la famille n'ont pas reçu Jésus-Christ dans leur vie, eh bien, nous n'irons pas ailleurs. Nous n'irons pas annoncer l'évangile ailleurs. Nous n'irons pas vers d'autres personnes. Et je leur ai dit, mais merci de vous soucier de votre famille. Je pense qu'il est bon de vouloir tout mettre en œuvre pour que chaque membre de votre famille puisse recevoir Jésus dans leur vie. Mais souvenez-vous que c'est Jésus qui est le bon berger et que peut-être il va placer d'autres personnes sur la route des membres de vos familles et qu'il attend de vous d'aller vers d'autres personnes qui ne sont pas membres de votre famille biologique. Alors que ce matin, ben, nous puissions nous aussi avoir cette envie de sortir peut-être de notre, de notre endroit sécuritaire pour aller vers les uns et vers les autres. Et ne pas se contenter justement en fait, d'annoncer l'évangile, mais d'être ces hommes et ces femmes qui sont des exemples, en fait, des exemples du Christ. Ce matin, en fait, nous avons dit, ou en fait, nous nous sommes rappelés, bon, mais que le monde a besoin de l'évangile. Et c'est vrai que le monde a besoin de l'évangile. Et à nous de l'annoncer. Mais au travers de l'exemple du bon berger, de ce que Jésus dit de lui, finalement, et de ce qu'il attend de chacun d'entre nous, eh bien, il nous dit, le monde dans lequel vous vivez a besoin d'exemples. Alors soyez mes exemples, afin que toutes ces personnes que le Seigneur placera sur votre chemin, eh bien, puissent se dire que Jésus, ce n'est pas juste une philosophie, mais que Jésus est ce Dieu vivant qui remplit d'amour à notre égard, qui a choisi de prendre notre condition humaine, faire don de sa vie, afin que nous ayons la vie, et la vie à jamais. Et nous prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole ce matin. Merci parce que tu es le bon berger, tu es celui qui jamais ne nous abandonnera, jamais. Tu es celui qui a donné ta vie pour nous. Tu es celui qui nous connaît comme personne d'autre ne nous connaît. Tu es celui qui veut encore accueillir au sein même de sa famille beaucoup de personnes qui sont d'ici, qui sont d'ailleurs. Alors aide-nous aujourd'hui, Jésus, à être attentifs, à être là pour les uns et pour les autres. Et que par nos paroles et que par notre exemple, nous puissions être ton témoin dans ce monde. Nous voulons te le prier en ton nom. Amen.